7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Aujourd'hui, c'est le moment, les amis de l'école à la radio, de vous mettre derrière le poste avec vos enfants et de rattraper le temps perdu pour enfin comprendre la règle de 3 et les proportionnalités. Bonjour Laurence Girard.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes enseignante en école primaire et j'ai fait un petit sondage autour de moi à RFI. On a beaucoup, beaucoup oublié la règle de 3, donc vous nous promettez une méthode sans douleur.
Vous aviez beaucoup oublié la règle de 3. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer une règle infaillible pour résoudre un problème de proportionnalité. C'est donc la fameuse règle de 3.
La
donc,
fameuse.
Ce matin, tous les enfants, les petits et les grands vont travailler soit en manipulant, soit en calculant autour d'un même problème de poule à nourrir. Donc, à vos papiers, à vos crayons.
Oui, on est prêts. Et vous, vous parlez bien devant le téléphone, hein, Laurence, parce que cette leçon est cruciale. Kimberley Elena Atambakunda, au Sénégal, nous dit « J'ai toujours eu des problèmes avec la règle de 3, ça nous suit. Et c'est grave de ne pas la comprendre, car c'est très utile ensuite pour les maths en classe supérieure. » Donc, vous l'avez dit, ardoise ou craie, ou feuille de papier, crayon. Et puis aussi, pour les plus petits, il faut préparer une vingtaine de cailloux ou de grains de maïs, ça sera peut-être plus simple, ou de grains de riz, peu importe, et 10 poules dessinées sur 10 bouts de papier, ou découpées si vous avez le temps, enfin on commence bientôt l'émission, alors dépêchez-vous, les plus grands d'aider les plus petits, il n'est pas question qu'on lâche les plus petits en rase campagne, car dès leur plus jeune âge, ils peuvent commencer déjà à s'initier à la méthode de la proportionnalité, même s'ils ne vont pas manipuler la règle mathématique. Ensuite, un conte, une surprise trop salée, écrit par Vanessa Alabi, qui est publié par Planète J'aime lire, Bayard Afrique, et raconté par Héloïse Auria. Et en fin d'émission, les conseils du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, ou comment le mot Wolof Tatane, qui signifie recueillir, pourrait nous inspirer pour enseigner aux enfants à écouter la parole des autres, à être attentifs. Émission réalisée chaque jour avec l'équipe en studio et en télétravail, Sigrid Azeroual, Delphine de Dienous, Romain Dubrac, Nicolas Benita. Et bien sûr, vos commentaires et les dessins des enfants pour l'album de RFI, l'école à la radio, inspiré par les contes, les notions étudiées ou tout simplement l'école à la radio en confinement. Sur WhatsApp, le compte, c'est le 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Et depuis les séquences d'écriture poétique, je dois vous dire qu'à l'école à la radio, c'est une pluie de vers qui s'abat sur l'émission. Merci à vous, Arfang, qui est à Thiès au Sénégal.
Coronavirus, il est déjà légendaire. Il est dans l'air ou sur terre ou dans les vers, dans la mer, rendant notre vie si amère, distanciant pères et pères, mères et mères. Il a retenu prestataires universitaires et scolaires. Il a cloué au sol avions et hélicoptères, fermant les frontières, posant des barrières. Pas téméraire, encore moins suicidaire, je n'en ai même pas l'air. Alors je me taire et me confine dans une aire, pour une aire que je souhaite passagère, éphémère, telle est ma prière. Oui, je me taire et ne saurais me taire, pour dire portez vos masques, tels des mousquetaires, solitaires, mais plus que jamais solidaires. Je respecte et veux faire respecter les consignes sanitaires et les restrictions sécuritaires. C'est élémentaire pour sauver notre élémentaire. Gage d'une issue salutaire à l'échelle planétaire et peut-être d'une renaissance humanitaire.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Et je rappelle notre compte WhatsApp pour poser vos questions, vos réactions ou vos poèmes, comme le très beau texte d'Arfang Atiès, 33 1 84 22 71 71. Laurence Girard-Guilhem, la règle de 3, quand est-ce qu'on peut ou on doit utiliser la règle de 3?
La règle de 3, elle s'utilise quand les données sont liées, proportionnel à d'autres. Par exemple, s'il faut 2 œufs pour faire un gâteau, pour 2 gâteaux, on cherche combien il en faut. Il en faut 4. Donc, il y a toujours une relation entre les données. Moi, je dis aussi que c'est une méthode directe et rapide. Je n'ai pas choisi ces mots au hasard parce que M comme méthode, mais aussi comme multiplication. D comme direct ou comme division. Et R comme rapide, mais aussi comme résultat.
Oui, donc j'ai compris qu'il faudra appliquer cette méthode multiplication, division, résultat.
Voilà, et on va donc proposer une situation problème à tous les enfants.
Et dans tous ces problèmes, on aura à chaque fois, on connaîtra 3 chiffres, hein, et, ou 3 nombres, et il faudra trouver le 4e. C'est ça la constante.
Exactement.
De la règle de 3.
Tout à fait, oui. Mais les plus petits, ils vont chercher la réponse en manipulant avec les dessins des petites poules,
oui,
et leurs grains de maïs, pendant que les grands, ils vont essayer d'y répondre en faisant des calculs. On verra avec les plus grands ensuite comment on aurait pu utiliser la règle de 3.
Alors,
peut-être
c'est parti.
Qu'ils la connaissent déjà.
Ouais. Alors, c'est parti. On commence avec un premier problème. Et tout le monde prépare ses petites poules ou ça crée son ardoise, son papier, ses crayons en fonction de l'âge de chacun.
Tout à fait. Donc, papa est parti tôt ce matin. Jojo est resté seul à la maison. Sur la table, papa a laissé un mot. Jojo le lit. Mon Jojo, n'oublie pas de donner à manger aux poules. 3 épis de maïs pour 2 poules. À ce soir, bise ton papa. Et puis ajoute, vérifie bien que les 10 poules soient rentrées.
Bon, alors, on va enlever Jojo et rester seul à la maison parce qu'on a bien compris qu'il allait falloir faire des calculs. Donc, il faut retenir les chiffres que vous avez donnés. Donc,
voilà,
n'oublie
donc
pas de donner
demander
à manger aux poules. 3 épis de maïs pour 2 poules. Et vérifie,
donc,
bien que les, voilà, et vérifie bien que les 10 poules soient rentrées. Et donc, la question, c'est...
Combien va-t-il devoir donner d'épis pour les 10 poules?
Ah, combien d'épis pour les 10 poules, sachant qu'il en faut 3 épis pour 2 poules.
2 poules. Donc, les plus petits, vous allez prendre un grain ou un caillou pour remplacer un épi de maïs, un grain de riz, un grain de maïs, voilà, pour remplacer un épi et vos images de petites poules.
Oui.
Comme on cherche pour 10 poules, vous allez poser devant vous les 10 dessins.
Voilà, les 10 dessins, les 10
vous
petits papiers.
C'est pareil. Mmh. Hein, c'est
ouais. Et on met qu'est-ce donc 2 grains de riz ou 2 grains de maïs devant chaque poule.
Non,
non, pour les 2 poules.
Épis de maïs. Oui, c'est ça.
3.
3 épis de maïs pour 2 poules à chaque fois.
Oui. Donc 3 pour une poule.
Non, 3 pour 2 poules.
Oui.
3 épis pour 2 poules. C'est là que c'est un petit peu plus difficile. Donc, comment vous allez faire? Vous allez mettre 2 poules ensemble et devant elles, à chaque fois, vous allez poser 3 cailloux.
Oui. Donc, on a fait un premier groupe de 2 poules, un autre groupe de 2 poules qui ont chacune 3 grains pour 3 épis de maïs.
Ah, donc, 2 poules, 3. Encore 2, ça va faire 4 poules, 6 grains de maïs. On met encore un troisième groupe de 2 poules. On met encore 3 cailloux. Un quatrième couple de 2 poules. Enfin, une quatrième équipe de 2 poules.
Ouais.
Et on leur donne 3 épis,
ouais,
ou 3 grains de maïs. Donc, on en est déjà à 8.
Ouais.
8
et
poules.
On va jusqu'à 10 poules.
Voilà. Et on rajoute.
Et le dernier groupe de 2 poules avec à chaque fois... 3 épis de maïs devant elles.
Voilà.
Donc là, fait, elles ont toutes leurs 3 épis de maïs.
Voilà, c'est ça. Donc on a 5 groupes de 2 poules. On leur a donné à manger, on leur a mis 3 cailloux à chaque groupe.
Ouais.
Donc on a donné à manger 10 poules. Maintenant, on va compter les cailloux.
Les cailloux ou les épis de maïs ou les grains.
Ou les épis de maïs.
En tout,
voilà.
Il y a combien de nourriture au total?
Et pour aller plus vite, on va compter de 3 en 3. Donc 3, 6,
9,
12 et 15. Donc 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, ça fait 15.
Voilà. Alors là, évidemment, c'est pas rapide hein, comme méthode. Parce qu'il faut dessiner les poules, il faut mettre les papiers sur la table, il faut leur distribuer du grain de maïs.
Il faut compter, il ne faut pas se tromper, parce qu'à chaque fois qu'on compte, on prend le risque de se tromper.
Exactement.
Voilà.
Bon, on est encore là demain matin, hein, si la règle de 3, ça se passe comme ça.
Pour que les plus petits continuent de travailler avec leurs cailloux, on va leur demander de trouver, donc ils vont continuer à dessiner, combien de poules on pourrait nourrir, cette fois-ci avec 24 épis de maïs.
Combien de poules de avec 24 épis de maïs, mais sachant que toujours 3 épis, toujours, mais toujours 3 épis pour 2 poules.
Pour 2 poules,
c'est
toujours.
Ça.
Oui, oui, d'accord. On reste la même contrainte.
D'accord, 3 épis pour 2 poules, on a 24 épis de maïs et il nous faut l'inconnu, le quatrième nombre qu'on n'a pas.
C'est
pour
donc
combien de poules,
le nombre. Voilà, donc ouais. Les enfants vont devoir dessiner d'autres petites poules. Bon, pendant que vous cherchez les petits, on va voir avec les grands ce qu'ils ont fait. Alors, comment est-ce que vous avez pu résoudre ce problème? Parce qu'on peut le résoudre autrement, mais c'est un peu plus long, plus compliqué et plus incertain. Donc, on avait au départ 3 épis de maïs pour 2 poules. Combien d'épis de maïs pour 10 poules? Alors, quand on a des données mathématiques comme ça, on observe pour voir si on voit des liens entre les nombres. Alors, est-ce qu'Emmanuel, vous voyez un lien entre les
J'aurais fait la méthode par tâtonnement. J'aurais rajouté un zéro partout, hein, 30 épis pour 20 poules. Donc, 20 poules divisé par 2, ça fait 10 poules. Et donc, ça fait...
30 divisé par 2 aussi.
C'est ça, exactement. Oui, 30 divisé par 2. C'est une méthode par tâtonnement, là.
Mais ça fonctionne, mais effectivement, c'est une méthode plus infaillible.
Eh bien oui, c'est facile parce qu'il y a 10 poules.
Oui, il y a aussi des enfants qui auraient pu faire, pour, entre 2 poules et 10 poules, on multiplie par 5. Donc on va multiplier par 5 le nombre d'épis de maïs. 3 fois 5, ça fait 15. Ça fonctionne aussi, mais il fallait voir le lien entre les 2 et les 10 poules. Bon. Donc nous, on va écrire ce problème sous forme mathématique. Et sur votre feuille, les enfants, vous allez faire 2 colonnes. Une première colonne, en haut, vous allez écrire épis, comme les épis de maïs. On ne va pas tout écrire pour aller plus vite. Hein. Mmh. Et en haut de la deuxième colonne, vous allez écrire poule.
Donc la colonne de gauche, épis. La colonne de droite, poule.
Poule, voilà. D'accord. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, plus rapidement, les enfants n'écriront plus le nom des colonnes. Que vous faites d'ailleurs aujourd'hui.
Ouais. Et donc là, on va remplir avec les données que nous avons, que nous donne le problème, si j'ai bien compris.
C'est ça, oui.
Donc, dans la colonne épis, voilà, on va écrire le nombre d'épis qu'on a dans le problème, c'est-à-dire 3 épis de maïs, donc on met 3.
Voilà. Et à côté, dans la deuxième colonne, vous allez écrire 2, parce qu'on a 3 épis pour nourrir 2 poules. Sur la deuxième ligne, dans la première colonne, eh bien, on ne connaît pas le résultat. C'est justement ce qu'on va chercher.
Ouais, on ne sait pas combien d'épis de maïs.
Donc, on n'écrit rien.
Mais on sait que c'est pour 10 poules.
Voilà. Donc, dans la deuxième colonne, vous écrivez 10.
Donc, 2 et 10 dans la colonne des poules, 3 dans la colonne épis.
Exactement. 3 et rien en dessous. 2 et 10. Donc, on a 3 nombres écrit, et on cherche le quatrième. Eh bien, quand on a 3 nombres et qu'on cherche le quatrième, justement, on peut appliquer cette fameuse règle de 3. Alors, pour que ce soit plus facile et plus visuel, les enfants, vous allez faire un rond autour de chaque nombre et un rond là où il manque un nombre aussi, celui qu'on cherche. Donc, on a 2 ronds côte à côte et 2 ronds les uns sous les autres.
Ouais, on le fait en même temps que vous, hein, Laurence. Donc, on entoure le 3, on entoure le 2, on entoure le 10.
Voilà, et à chaque fois qu'on fera la règle de 3, on aura ces 4 ronds, 2 et 2. Ensuite, vous allez tracer 2 grands traits. Un trait qui va du 3 au 10 et un autre qui va du 2 à rien.
Ouais, à la bulle vide.
Rien pour l'instant.
Ouais, au rond vide. Donc ça fait une croix, ça fait comme une forme de multiplication.
Exactement, comme le signe multiplié. Donc la règle de 3, je vous l'ai déjà dit, c'est multiplier, diviser, résultat.
Ouais,
maintenant,
c'est
il faut savoir quel nombre on va multiplier entre eux. Donc, on multipliera toujours entre eux les nombres qui sont reliés.
Donc là, si je regarde mon schéma, les nombres qui sont reliés, j'ai 3 et 10.
Voilà.
Le 2, il est relié à rien pour l'instant.
Mais non, il est tout seul.
Il est tout seul.
Donc, on multiplie ensemble les nombres qui sont reliés et on les divise par le nombre tout seul. Alors, bon, Emmanuel, vous allez pouvoir nous donner le résultat.
Alors, je multiplie donc 3 fois 10, ça nous donne 30, hein, ou 10 fois 3, c'est pareil, 30.
Oui.
Et ensuite, je divise par le nombre qui est tout seul, par 2, 30 divisé par 2, ça donne 15.
C'est ça, 30.
La moitié.
Par 2, c'est donc la moitié, bravo. Donc on écrit 15 dans la dernière bulle, dans celle qui reste. Et ben, comment on va interpréter ça? On va pouvoir dire que on a besoin de 15 épis de maïs pour nourrir 10 poules. Si on lit le tableau, on peut dire ça facilement.
C'est ça. Donc le 15 est à mettre dans la colonne des épis à l'endroit du chiffre du nombre inconnu.
Exactement. Et pour vérifier, il faut toujours que le résultat de la multiplication des deux branches soit égal. Donc 3 fois 10, c'est bien égal à 2 fois 15.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Donc les calculs sont exacts.
On est d'accord. Donc ça, c'est une façon
de vérifier. Et en mathématiques, c'est important de toujours vérifier, d'essayer de vérifier, de voir si ça peut marcher, en tout cas.
Alors, tout à l'heure, donc, on a compris le principe, les colonnes, ensuite les croix, les chiffres reliés. On a compris le principe. Vous avez donné un autre problème tout à l'heure à faire aux petits, où ils doivent à nouveau distribuer des épis de maïs. Toujours 3 épis pour 2 poules, mais il y a 24 épis de maïs à distribuer.
C'est ça. Voilà. Donc on va
et on ne sait pas combien il y a de poules. Là. Donc du coup, on peut refaire cette méthode de la règle de 3, parce que là, les autres, les petits, à mon avis, sont toujours en train de distribuer, hein, je pense.
Donc on va le faire.
Ceci dit, attendez, il ne faut pas se moquer plus jeunes. C'est très important de comprendre, parce que c'est la notion de proportionnalité, le fait de distribuer.
Et oui, c'est ça. C'est vraiment le lien des données les unes avec les autres, par rapport aux autres. Donc, les plus petits, c'est très bien. Et c'est comme ça que vous voyez aussi qu'on va faire qu'il y a un lien entre le nombre de petites poules et le nombre de cailloux. Parce que plus on a de poules et plus on a de cailloux. Et... Bon. Donc, les plus grands,
alors,
vous allez faire.
N'allons pas trop vite, parce qu'on est allé peut-être un peu vite pour ceux qui commencent à se noyer avec les colonnes, les croix, qu'est-ce que je multiplie, qu'est-ce que je divise. Donc là, pour ceux qui sont un peu largués, ça y est, on en fait un deuxième et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Donc, on a toujours 3 épis pour 2 poules. Ça ne change pas. Hein.
Voilà. Donc, ce que je propose, c'est de faire un nouveau petit schéma sera vide, comme ça on va le remplir tranquillement avec vous les enfants.
Donc toujours les colonnes, la colonne des épis, la colonne des poules.
La colonne des épis, du nombre d'épis, la colonne des poules. Donc 3 dans épis, 3 épis pour 2 poules. Donc on va tout de suite les entourer, faire un cercle autour comme ça, c'est plus visuel. Donc 3 épis pour 2 poules et c'est voici ce que l'on cherche, c'est 24 épis pour combien de poules? Donc
voilà.
24 épis.
Toujours dans
la
colonne des épis, en dessous du 3, et vous entourez aussi le 24. Hein. Et dans la colonne des poules, en dessous, il y a un rond, mais vide. On ne connaît pas encore le résultat.
Voilà, une bulle vide. Donc, on a notre tableau qui est rempli. Maintenant, on va faire les traits pour relier. Donc, les nombres qui sont opposés. 24, on va le relier avec 2.
Oui. Donc, là, c'est multiplier. Souvenons-nous, multiplier, diviser, résultat.
Voilà.
Donc, 24 est relié à 2. On le multiplie. 24 fois 2, ça fait... Là, ce n'est pas des très grands nombres. 24 fois 2, ça fait 48. Sinon, on peut poser l'addition.
Oui, 24 plus 24. Mais là, justement, quand on est dans la règle de 3, plus d'addition. Multiplication, division. Donc 24 fois 2, 48. Et 48 divisé par 3. Ah, qu'est-ce qui se termine par 8 dans la table de 3? C'est 18. Donc 16. 3 fois 6, 18. Et 3 fois 10, 30. D'accord? Donc 48 divisé par 3, ça fait bien 16.
Ouais. Donc
dans la bulle vide, on va écrire 16, mais on va quand même vérifier. A priori, il faudrait 24 et pi pour 16 poules.
Ouais. Alors là, vous calculez quand même un peu vite de tête, hein, Laurence. Je ne voudrais pas dire, mais 48 divisé par 3...
Alors, 48 divisé par 3, comment est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Donc, qu'est-ce qui se termine par 8 dans la table de 3? Je me suis dit que c'était 18. 3 fois 6, ça fait 18.
18, en effet.
Donc, 6 et 48 moins 18, ça fait 30. 30 fois 30, c'est 3 fois 10. Mmh. Donc, 10 plus 6, c'était 16. Mais dans la règle de 3, parfois, on a des nombres un peu compliqués. Et on peut poser l'addition, on poser la multiplication plutôt que poser
voilà. Et puis, bien sûr, on a des règles de 3 avec des nombres beaucoup plus importants et
beaucoup plus grands.
Qui et nous obligent à utiliser la calculette, bien sûr.
Voilà.
On peut tout
exactement
à fait savoir faire la règle de 3 avec la calculette.
Oui,
on est d'accord.
Ouais.
Donc,
oui.
Le plus important, là, c'est qu'on a multiplié les deux nombres reliés et on a divisé par le nombre qui est tout seul. On a trouvé le résultat, c'est 16. Ça veut dire qu'il faut donc 24 épis pour nourrir. On ne savait pas combien de poules. Et bien, on sait que 24 épis, ça va bien nourrir 16 poules.
Oui, c'est ça. Donc, et on vérifie. 3 fois 16, 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Ça fait bien 48, tout comme 2 fois 24.
48 également. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un autre?
Alors, non. On va peut-être en faire un autre, mais je voudrais être sûre déjà qu'on résume de ce qu'il faut retenir sur cette règle de 3.
Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? D'abord, quand est-ce qu'on l'utilise? La première chose, c'est que la règle de 3, elle s'applique dans la situation de proportionnalité, toujours. Proportionnalité, quand il y a des proportions. Le deuxième point, c'est que l'on peut utiliser la règle de 3 si on a 3 nombres et qu'on cherche le quatrième. La troisième règle importante, c'est
ça, c'est la formule magique. Ça, je ne l'ai pas oublié. La formule magique,
MDR.
C'est MDR, hein, multiplication, division, résultat.
Voilà.
Ça s'appelle méthode sans douleur, hein, ce que vous nous aviez promis.
La quatrième chose à retenir, c'est qu'on multiplie, et ça c'est vraiment aussi très important, les nombres ensemble d'une même branche.
Quand on a fait le schéma
que c'était les
avec
branches,
la croix.
Voilà.
Ouais.
Ceux qui sont au bout de chaque trait. Et enfin, la dernière, c'est qu'on divise par le nombre qui est tout seul au bout de sa branche.
On a dit l'essentiel, Laurence?
Et oui, on a tout dit.
Alors, un dernier problème.
Il n'y a plus qu'à appliquer.
Oui, ben justement. Allez, un dernier pour être sûr que vous ayez compris. Allez, je vous laisse lire le problème.
Salimou est un jeune homme plein d'ardeur qui décide de repeindre sa maison. Quand il arrive au magasin de peinture, il n'y a aucun vendeur disponible pour lui indiquer quelle quantité de peinture il doit acheter.
Ah, et ben ça, c'est fréquent.
Cherche...
Hein.
Il cherche donc sur le pot, il trouve une indication. 1 litre de peinture pour une surface de 12 mètres carrés. 1 litre de peinture pour une surface de 12 mètres carrés. Lui, Salimou, il a calculé qu'il devait repeindre 84 mètres carrés. Alors, moi, je vous propose...
Alors, la question, donc...
On fasse les bulles ensemble.
Ouais.
Combien de litres de peinture doit-il acheter?
Voilà. Alors,
combien de litres de peinture doit-il acheter?
Bon, moi, j'ai déjà commencé au fur et à mesure les colonnes, hein, comme vous nous avez enseigné. Donc, un litre.
La première colonne, on vient y mettre.
C'est la peinture.
Les litres, c'est
voilà,
ça.
Les litres.
Voilà. Et la deuxième colonne.
C'est la surface.
La surface.
Voilà. Donc, 12.
Donc, 1 pour 12. Et nous, on a le nombre de litres, on le cherche. Donc, on fait une bulle sous le 1.
Ouais, il n'y a rien dedans. On n'a pas encore le résultat.
Non.
Et l'autre bulle, c'est...
Et la surface, on la connaît.
Voilà, 84 mètres carrés. Donc, j'écris 84 en dessous du 12. Hein, c'est bien ça, Laurence?
Oui. Oui,
d'accord.
C'est ça.
Après, on relie toutes ces bulles avec une croix. Avec
en faisant une croix.
La croix de la multiplication.
Exactement. Hein.
Et là, je me souviens de votre formule magique. Multiplier, diviser, résultat. Donc, multiplier, vous nous avez dit qu'on multiplie toujours les deux nombres qui sont reliés.
Voilà, ceux que l'on connaît. Donc ici, on a 84 et...
1. Donc, une fois 84,
hein.
Bon, une fois 84, ça, pour ceux qui connaissent la multiplication, ça va vite, ça fait 84.
C'est ça. Et ensuite, 84
divisé par le nombre qui est tout seul. C'est le 12 qui est tout seul.
C'est ça.
84 divisé par 12.
Alors, est-ce que vous connaissez la table de 12?
Alors, vous nous l'avez enseigné, me semble-t-il.
Non. 12, non. Donc... 12, bon, moi je sais par cœur que 5 fois 12 ça fait 60, donc je vais partir d'ici.
Ouais.
Donc 5 fois 12 ça fait 60. Donc 6 fois 12 ça fait 72. Et 7 fois 12 ça fait 84.
Exactement. 7 fois 12, 84. Donc 12 divisé, 84 divisé, 12 divisé par.
Non, 84
divisé par 12, c'est bien ça. Ça fait donc.
Ça fait donc 7.
7. Et donc, il faut 7 litres de peinture pour couvrir 84 mètres carrés. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Et voilà. Alors, si on veut vérifier, je regarde l'heure en même temps quand même, hein, parce qu'on est en direct à la radio. Si on veut vérifier, on multiplie 7 fois 12. On trouve bien 84, on multiplie 84 fois 1, on trouve 84. Les deux résultats doivent être égaux et on sait qu'on n'a pas raté notre règle de 3. C'est bien ça, Laurence?
Oui, c'est bien ça. Exactement. Je pense que vous avez tout compris, Emmanuel. Bravo.
Eh bien, écoutez, je ne suis pas la seule parce que Mohamed, qui est à Sarre, dans le sud du Tchad, nous dit dès la classe de seconde, la règle de 3 s'avère de plus en plus importante. Et au fur et à mesure que l'on passe en classe supérieure, en physique comme en mathématiques, il faut la connaître. Il a raison. Mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas bien comprise. Et grâce à vous, je suis maintenant certain de la maîtriser. C'est quand même super comme compliment pour vous, Laurence.
Ah oui, merci. Hein ?
Et c'est vrai que moi, je me souviens d'avoir discuté un jour avec un patron de start-up, ingénieur, qui avait fait des études, évidemment, de mathématiques très poussées et qui avait dit, bon, finalement, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie, mais dans mon entreprise, dans la vie de tous les jours, je me sers essentiellement des quatre opérations et de la règle de 3. Donc, incontournable.
Mais il ne faut pas hésiter, surtout les enfants, à écrire au départ. Après, ça se fera tout seul dans la tête sans écrire, mais écrire les trois données et voir laquelle on cherche, c'est vraiment important au départ.
Ouais. Alors donc, on récapitule bien. Quand on a, par exemple, là, vous allez pouvoir vous entraîner les enfants et les grands frères, les grandes sœurs. Moi, je vous conseille d'aller chercher des recettes de cuisine sur Internet.
On leur propose, on va leur mettre un petit problème sur les réseaux sociaux.
Exactement. Et puis, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, allez vous connecter. Et puis, sinon, vous reprenez des recettes de cuisine sur Internet, vous changez les proportions. Et puis, vous faites des règles de 3, donc toujours...
Pour chaque ingrédient.
Voilà, pour chaque ingrédient. Donc, ça veut dire toujours deux colonnes, hein, puisque vous dites que la règle de 3, il y a toujours trois chiffres et une inconnue.
Dans ces cas-là, en recette de cuisine, il y aura toujours un nombre de parts. Mm-hmm. En général, c'est un nombre de parts ou un nombre de gâteaux.
Le nombre de personnes.
Et
ouais.
Ensuite, la quantité associée.
Exactement. Et donc, vous faites vos colonnes, vous remplissez avec vos chiffres
ou
nombres.
Voilà.
Vous faites les bulles, vous reliez
vous faites les signes.
En faisant la croix de la multiplication. Et ensuite, donc, on multiplie division
voilà.
Avec par le nombre qui est tout seul, le pauvre, et le résultat. Et ensuite, vous pouvez vérifier en multipliant chaque branche et vous savez que les deux résultats doivent être les mêmes et vous avez réussi votre règle de 3. Laurence, vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'on a tout retenu.
Avec plaisir.
Et du coup, d'ailleurs, ça tombe bien parce que dans quelques instants, l'histoire du jour se passe dans la marmite pour une sauce aubergine au poisson accompagnée de riz. Et bien sûr, je redonne le compte WhatsApp parce qu'on voudrait bien voir vos résultats, vos problèmes, vos belles règles de 3. Le compte WhatsApp 33184 et les dessins, oui, bien sûr, hein, les photos des schémas. 80, alors, je le redonne, le compte WhatsApp 331 84 22 71 71. J'en perds mon latin, moi. Qu'est-ce qu'on a calculé aujourd'hui, Laurence? Ouh là 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 là. Merci encore
très
à
bien,
vous.
Bravo, Emmanuel.
Très, très bonne journée. Et tout de suite, c'est Guts et Patrice, Want It Back. Écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio, sur RFI, nous sommes en direct. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auria, une surprise trop salée.
Mais peut-être que ça, je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Une surprise trop salée. Un roman écrit par Vanessa Alabi. Amina aime faire la cuisine. Quand Amina ne va pas à l'école, elle aide son papa et sa maman à préparer le repas de la maison. Elle passe l'écumoire à sa maman pour touiller le riz dans la marmite, donne du sel à papa pour assaisonner le poisson. Amina aime aussi réunir les ingrédients sur le plan de travail avant de commencer la recette. Quand elle n'a pas école, elle aide à faire la table pour le déjeuner et le dîner. Aujourd'hui, c'est le 17 avril et c'est l'anniversaire de maman. Amina a décidé de lui faire une surprise. Oui, mais laquelle ? Amina a une idée. Elle court la partager à son papa, assis sur le sofa. « Papa, on pourrait faire une recette pour maman ? Elle aime manger le foutou à la sauce graine !» suggère Amina.
« Oui, ma fille, c'est une bonne idée. Mais souviens-toi, hier nous en avons mangé !» répond le papa de la demoiselle.
Après un petit moment de réflexion, papa fait une proposition à sa fille.
« Que dirais-tu d'une sauce aubergine accompagnée de riz ?»«
Oui ! De la sauce aubergine au poisson, avec du riz blanc !»
répond toute joyeuse Amina. Une fois la recette trouvée, ils se mettent tout de suite à la tâche. Ça tombe bien, maman est absente. En effet, elle est partie au salon de coiffure ce matin. Pendant que le papa réunit les ustensiles, Amina s'occupe des ingrédients. Elle prend des tomates, dans le panier posé près du frigo, un peu d'oignon, des aubergines et du piment. Elle les réunit sur le plan de travail. Avec son papa, il nettoie bien les ingrédients avant de les mettre dans une casserole sur la gazinière. Ils ajoutent un peu d'eau et mettent le couvercle. Impatiente, elle tourne en rond pendant que la sauce bouillonne sur le feu. Elle tient la spatule pour goûter de temps en temps. Mais alors que papa a le dos tourné, Amina s'empare de la boîte de sel, y plonge ses doigts et verse une bonne poignée dans la sauce. Mais elle en met trop. Le sel, c'est bien pour assaisonner. C'est maman qui va adorer, se dit-elle. Lorsque papa goûte la préparation, aïe aïe aïe, il fait la moue et se tourne vers Amina. « Mais ma chérie, la sauce est bien trop salée. Maman ne pourra pas en manger. »«
Mais pourquoi ?» interroge Amina. « J'ai mis beaucoup de sel pour que ce soit doux. »«
Oh, ma pauvre enfant, ça ne marche pas comme ça, »
explique le papa, désolé. Impossible de rater la surprise. Alors la petite chef cherche tout de suite une solution. Elle pense à la sœur de sa maman, Tata Bajoba. Celle-ci aimait partager avec Amina ses recettes chaque fois qu'elle venait à la maison.
« Mais oui !»
s'écria-t-elle en se précipitant hors de la cuisine, sous le regard interrogateur de son père. Elle court à la recherche du petit carnet des numéros de téléphone. Elle se dirige vers le meuble de la télévision. « Zut, pas de carnet.
Mais où est-il donc passé ?»
Après avoir fouillé plusieurs coins du salon, Amina décide de retourner dans la cuisine demander l'aide de son père. Mais au même moment, elle aperçoit une pile de documents derrière la bibliothèque. Le carnet des numéros était coincé parmi d'autres livres. Elle le feuillette rapidement, très rapidement.
« Où se trouve donc le numéro de portable de Tata Bajoba ?»
s'interroge la fillette. Amina s'empresse de retrouver son père dans la cuisine.
« Vite, papa, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît !»«
Bien sûr, ma chérie, » dit le père curieux.
« Je dois appeler Tata Bajoba. Elle pourra nous aider !»
reprend Amina. Amina compose le numéro de Tata Bajoba pour lui raconter le petit souci qu'elle a.
Allô ? Bonjour Tata Bajoba !
Allô Amina, c'est toi ?
Oui Tata, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ?
De quoi as-tu besoin mon bébé ?
Amina raconte toute l'histoire à sa tante et lui demande une solution. Celle-ci lui explique l'astuce de la pomme de terre.
Écoute-moi bien Amina. Lave une grosse pomme de terre, coupe-la en deux. Ensuite, tu la mets dans la sauce.
Mais Tata Bajoba, c'est une sauce aubergine. Il n'y a pas de pommes de terre dans la liste des ingrédients,
s'exclame Amina.
Je sais, ma chérie. Mais la pomme de terre va absorber le surplus de sel. Et n'oublie surtout pas de la retirer en fin de cuisson.
Une fois la conversation avec sa tante terminée, la petite chef explique l'astuce à son papa. Celui-ci aide Amina à peler une pomme de terre qu'il coupe en deux avant de l'ajouter à la préparation.
« Je pense qu'on va y arriver, » dit papa.
« Oh oui, papa, croisons les doigts !»
répond Amina un peu inquiète. La sauce est enfin prête. Maman, de retour du salon de beauté, sent la bonne odeur depuis la fenêtre de la maison. Amina court à sa rencontre et s'écrie
« Joyeux anniversaire, maman !»
Toute la famille se met à table pour le repas d'anniversaire. Pendant que maman prend la première bouchée, Amina lui raconte la journée.
« Maman, c'est papa et moi qui avons fait ce repas pour toi !»
explique Amina.
« Oh, merci à tous les deux, il est vraiment très bon !»
dit la maman en souriant.
« C'est vrai, maman ?»
demande Amina les yeux écarquillés.
« Absolument, je suis fière de toi !»
Et tu sais, si tu continues de t'améliorer, bientôt, tu pourras participer à un concours de cuisine pour enfants. Amina et son papa se regardent et se font un clin d'œil. « Amina décide de raconter à sa maman leur petite mésaventure.
Sans Tata Bajoba, notre préparation serait complètement ratée, s'exclame Amina.
Après le repas, Amina demande à nouveau son téléphone à papa Amani pour appeler sa tante.
Tata Bajoba, merci! Maman a aimé le repas. Elle a dit qu'elle était très fière de moi.
Bravo mon bébé, tu es la meilleure. Je t'enverrai un cadeau à ma prochaine visite.
Grâce à une pomme de terre, la surprise a été sauvée et l'anniversaire réussi.
La mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Aurea. Cette histoire de surprise trop salée, en tout cas, nous enseigne à quoi peut servir la pomme de terre. Elle a été écrite par Vanessa Alabi, blogueuse passionnée par la littérature de jeunesse, et elle est publiée par Planète J'aime lire, Bayard, Afrique, et bientôt d'ailleurs, il y aura une chronique cuisine pour les enfants.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous retrouvons Ibrahima Girou au téléphone à Dakar. Bonjour Ibrahima Girou.
Bonjour Emmanuel et bonjour aux voisines et aux voisins.
Vous êtes psychologue pour l'UNICEF à Dakar au Sénégal. Aujourd'hui, la chronique et ce dont vous allez nous parler, c'est d'un mot wolof, tatane, comme apprendre à nos enfants à écouter. C'est le titre donc de votre nouvel épisode dans la série des leçons qui poussent dans le jardin de Hakima. Alors vous allez nous expliquer comment les plantes sont dans une position d'écoute hein, et comment on peut en tirer des leçons pratiques pour les voisins et les voisines qui nous écoutent. Alors moi, je ne parle pas Wolof couramment, hélas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce mot Wolof, tatane? Je ne sais pas déjà si je le prononce bien.
Vous le faites parfaitement bien, Emmanuel. Tatane est un mot wolof qui signifie collecter, recueillir, recevoir. Et par extrapolation, il pourrait signifier écouter et finalement comprendre ce qui nous est destiné et ce qui est utile pour nous. Tatane se dit également de l'acte de poser, par exemple, une bassine sous la pluie pour, par exemple, en collecter l'eau. Emmanuel, quand vous regardez l'ouverture des feuilles des plantes dès les premiers rayons de soleil, vous êtes émerveillé par cette attitude très régulière, c'est chaque jour comme ça, très sereine, très solennelle presque, très humble, très digne en même temps que les plantes présentent pour recueillir les bienfaits de sa majesté, le soleil qui fait du bien partout et que l'on n'entend nulle part. Tout le contraire, ceci dit, de l'humain qui ne ferait qu'un bien limité et qui voudrait que tout l'univers en soit informé.
Oui, mais alors en même temps, dignité et humilité, c'est une ligne de conduite qui est quand même difficile à tenir pour les humains.
Tout à fait, c'est assez challenging. Maintenant, tatane permet d'avoir la posture qui allie harmonieusement les deux pour éviter de vous mettre plus haut que celui qui vous enseigne d'une part et pour éviter d'oublier que c'est le même soleil qui vous éclaire tous les deux d'autre part. Donc le fait est que si vous avez un orgueil démesuré, personne ne voudra vous enseigner des choses. Et si vous n'avez aucune fierté, à l'inverse, personne ne vous respecte. Donc tatane est un puissant exercice qui permet de maintenir à la fois et surtout constamment humilité et dignité.
Alors, comment on se sert de ce mot wolof tatane, donc qui sert à recueillir, hein, pour aider les enfants à écouter. Les parents reprochent souvent aux enfants d'être têtus, de ne pas savoir écouter quand ils leur parlent.
Tout à fait, c'est assez classique, Emmanuel. Les enfants ne nous écoutent pas en réalité. Ils ne nous écoutent pas parler, seulement ils nous regardent agir aussi. La meilleure façon, du coup, de leur apprendre à écouter, c'est d'en donner l'exemple. Il faut les écouter. Pour les écouter, il faut qu'ils nous parlent. Il faut donc les encourager à parler. Et pour ça, il ne s'agit pas de leur demander de parler comme on leur demanderait de se taire. Non, il faudrait apprendre à leur demander leur avis, quel que soit leur âge, sur différents sujets, y compris, par exemple, la COVID-19. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils répondent qui compte. Ce qui compte, c'est d'abord le signal fort que nous donnons, que leur avis nous intéresse et que nous sommes prêts à les écouter. Ensuite, ce qui compte, c'est aussi que nous les poussons à réfléchir et que nous avons ainsi l'opportunité de savoir comment nos enfants réfléchissent et de les corriger avec tact et bienveillance s'ils se trompent. En les écoutant, on leur apprend à être humbles, car pour écouter, il faut s'oublier et faire de l'espace en soi pour prendre ou apprendre et comprendre. En les faisant parler de l'autre côté, on leur apprend la dignité, vu qu'ils apprennent qu'ils sont importants pour les parents. Ouais. Donc c'est les deux.
C'est ça, c'est réciproque. Et est-ce qu'on peut avoir un exemple très concret d'échange parent-enfant qui installe ou qui améliore les capacités d'écoute chez les enfants, peut-être en fonction des différents âges?
Oui, on peut, Emmanuel, prendre l'exemple des enfants de 3-5 ans, par exemple. Je prends un enfant qui s'appellerait Yatman. On peut dire, Yatman, tu sais pourquoi on ne sort pas de la maison comme avant? Et Yatma peut répondre, c'est à cause du coronavirus. Le coronavirus n'est pas gentil, il est méchant. En ce moment, on peut demander à nouveau, tu penses qu'on peut faire quelque chose ici à la maison pour jouer ensemble? Et ensuite, encourager l'enfant à parler de ce que vous pouvez faire ensemble et décider ensemble de le faire et faites-le. Cela fera de vous un parent crédible et consistant aux yeux de l'enfant. Prenons à présent l'exemple d'un ado avec qui on suit les journaux, par exemple, sur RFI. On peut lui demander, qu'est-ce que tu penses de ce que le journaliste vient de dire sur la situation des enfants en Afrique? Ensuite, écoutez votre adolescent et ne soyez pas pressé de donner les bonnes réponses si jamais elles existent. Soyez plutôt soucieux de trouver les bonnes questions, car les bonnes questions soient mieux que les bonnes réponses.
Oui, chercher les bonnes questions plutôt que les bonnes réponses. Ben ça, c'est pas si facile. Alors, il faut éviter d'enseigner tout ce que l'on sait, en gros, si je vous comprends bien. Hein. Mais pourtant, on dit que le parent doit partager ses connaissances, doit partager son expérience de vie, même si, en général, les adolescents en ont marre d'entendre les expériences de leurs parents.
On est d'accord. Donc, vous voyez, le problème n'est pas dans la mission du parent, Emmanuel, mais dans la façon de la conduire. En réalité, les bonnes réponses données par le parent ouvrent souvent des questions que le parent n'imagine pas. De l'autre côté, quand le parent pose les bonnes questions sur la base de son expérience, il donne mieux qu'une bonne réponse. Il fait mûrir l'enfant et le prépare à réfléchir de manière correcte et autonome quand le parent ne sera plus là.
Alors, la question de la semaine, Ibrahima, pour prolonger nos réflexions et pour que les enfants sachent mieux écouter.
Emmanuel, on a vu à quel point Tatane est important. Mais comment écouter quand on est déjà plein de soucis?
Merci Ibrahima Giroud pour ces réflexions et ces questions, puisque la question est plus importante que la réponse, vous nous l'avez dit. Les parents, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions, vous aussi, à Ibrahima Giroud, le psychologue. 33 1 84 22 71 71. Très bonne journée à Dakar, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.
Demain, suite de l'école à la radio, nous serons en compagnie de Gervais Lohembe et nous ferons des expériences scientifiques à hauteur d'enfant. Notre ami Gervais est un ex-professeur de sciences physiques, passionné de science et d'astronomie. Et bien sûr, en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur les plateformes de téléchargement et sur le site rfi.fr. À demain.